un podcast France Culture.
Ce qui est intéressant quand on voit l'histoire de l'humanité, c'est qu'aucune armée ne s'est aventurée en Afrique intertropicale. C'est vraiment quelque chose qui va apparaître très tardivement dans l'histoire avec la colonisation de l'Afrique, c'est le 19e siècle. Même déjà des pays comme l'Algérie, c'est au 19e siècle que les armées françaises essayent de prendre le pouvoir sur l'Algérie. Si on fait le parallèle, on regarde les Amériques, c'est beaucoup plus loin. C'est un territoire qui est pratiquement inaccessible jusqu'à la fin du 15e siècle. Et aussitôt que ce territoire est atteint, la colonisation démarre. En tout cas pour ce qui est des Antilles et de l'Amérique du Nord. Et même la côte brésilienne et l'Empire Inca. Donc la colonisation démarre sur les Amériques très très tôt. Une des différences, c'est que les colons arrivant en Afrique sont soumis à des maladies, et en particulier les maladies à transmission vectorielle. Et la première maladie transmise par des vecteurs, c'est le paludisme. Quand les conquistadors arrivent dans les Amériques, il n'y a pas de paludisme. Il y a très peu de maladies transmises par les vecteurs. C'est au contraire eux qui vont amener un certain nombre de maladies, et aussi d'ailleurs un certain nombre de vecteurs, un certain nombre de moustiques qui vont faire le voyage avec eux. Et ce sont les peuples amérindiens qui vont subir les maladies de l'envahisseur. En Afrique, le territoire est protégé par un certain nombre de maladies, et essentiellement d'ailleurs par le paludisme. Toute personne qui tente d'aller en Afrique se retrouve coincée par le paludisme. Et ensuite, quand il y a eu la traite des Noirs, l'esclavage, il y a eu là énormément de plasmodium, l'agent du paludisme, qui ont été importés au niveau des Antilles et au niveau des Amériques.
Deuxième épisode. Comment le paludisme a façonné notre histoire.
Parmi les grands conquérants qui auraient pu justement, avec leur armée, prendre le contrôle de territoires et qui se sont retrouvés finalement arrêtés par la maladie, voire par la mort, on a Alexandre le Grand, qui effectivement, en arrivant vers l'Inde, va tomber malade, va avoir une histoire de fièvre. Alors évidemment, on ne sait pas exactement quelle est l'origine de cette fièvre, mais il est tout à fait possible que ce soit du paludisme. Un autre grand souverain dont on est sûr qu'il a pu avoir le paludisme parce qu'il sa momie a été étudiée, c'est Toutankhamon. Et d'ailleurs aussi ses ascendants, ses descendants. Enfin, manifestement, il y avait du paludisme sur les rives du Nil, ce qui n'est pas une surprise puisqu'il faut de l'eau, il faut de la chaleur. Et je suis sûr que les moustiques étaient là aussi. On voit déjà l'impact du paludisme sur les guerres et les conquêtes avec cette colonisation très tardive de l'Afrique intertropicale. On le voit aussi dans les Amériques avec plusieurs épisodes qui peuvent bien faire comprendre combien soit le paludisme, soit d'autres maladies transmises par les moustiques. C'est des fièvres dues à des virus, et là, le paludisme, c'est pas un virus, c'est un protozoaire, c'est plus complexe. Mais des fièvres dues à des virus et transmises par des moustiques s'appellent des arboviroses. Parmi ces arboviroses, on va en avoir des récentes, comme le Zika, le chikungunya, la dengue, dont on a entendu parler récemment. Et une autre qui a eu un poids peut-être plus important dans l'histoire, c'est la fièvre jaune.
La situation était plus simple. Les Yankees ne sont pas prêts, nous, nous le sommes.
Il n'y aura même pas de bataille, vous verrez ça. Ils s'enfuiront tous comme des lapins.
Pendant la guerre de sécession, par exemple, les confédérés était plutôt dans le sud, plutôt dans des zones où il y a beaucoup de moustiques. Et là, il y avait, puisqu'ils avaient des esclaves en plus, donc il y avait beaucoup de transmission de paludisme. Et dès qu'arrivait la saison chaude, certains territoires étaient juste impossibles à fréquenter, surtout pour une armée en campagne, vivant sous la tente, avec beaucoup de trous provoqués par le passage des chevaux, des charrettes, etc. Ces trous, en période de pluie, permettent d'avoir des flaques, et donc énormément de moustiques. Et ces moustiques étaient capables de transmettre soit la fièvre jaune, soit le paludisme. Si bien qu'au bout de quelques semaines de campagne, tout le monde était au tapis, il pouvait y avoir comme ça beaucoup de morts. Ça a été utilisé par les sudistes, finalement, comme moyen de défense, en se disant, là, les nordistes ne pourront pas attaquer parce que le territoire est malsain. On ne savait pas encore que c'était les moustiques qui provoquaient le paludisme et la fièvre jaune. Et donc, ils retiraient leurs troupes, ou ils en laissaient un minimum, pour renforcer d'autres zones où les attaques pouvaient être menées parce qu'on n'était pas dans des zones marécageuses, etc. Et donc, les généraux sudistes ont utilisé le paludisme et les fièvres transmises par les moustiques, sans savoir que c'était lié aux moustiques, pour gagner du temps et se maintenir. Un autre exemple qui est vraiment très frappant, on a parlé d'Haïti pour le sida, on a parlé d'Haïti pour le choléra, donc on va en parler un peu pour essentiellement la fièvre jaune et un peu le paludisme. Donc Haïti, l'île Hispaniola, c'est le premier territoire que Christophe Colomb découvre, entre guillemets découvre, mais très vite s'installe donc un certain nombre de maladies comme le paludisme et la fièvre jaune, avec toujours cette importation du vecteur de la fièvre jaune à Aedes aegypti. Et en 1790, il commence à y avoir des troubles en Haïti qui sont un peu la conséquence de la Révolution française, des velléités de, non pas réellement d'indépendance à ce moment-là, mais plutôt d'abolition de l'esclavage. Napoléon décide de remettre tout ce monde-là au pas et il envoie son beau-frère et sa sœur pour reprendre le contrôle d'Haïti. On est en 1803. En 1803, les troupes françaises arrivent et sont bien organisées, sont puissantes. Les premières semaines de la campagne vont plutôt tourner à l'avantage des Français, au point que, au bout de 3 mois, le chef des Haïtiens, le chef des insurgés, qui est un général, qui est le Toussaint Louverture, se rend. Ces généraux vont rejoindre l'armée française. Bon, manifestement, la France a gagné. Et là-dessus arrive la saison des pluies. Et puis, très rapidement, avec les pluies, arrivent les maladies et une grosse épidémie de fièvre jaune, probablement augmentée par le paludisme, et les troupes françaises se rétrécissent, tant et si bien qu'il ne reste plus que quelques milliers d'hommes. Et à ce moment-là, évidemment, les généraux noirs quittent les troupes françaises, repartent finalement dans l'autre camp, et Dessalines, par exemple, qui est un de ces généraux, va reprendre le pouvoir et jeter finalement à la mer les troupes françaises qui vont essayer de s'échapper, et Haïti va acquérir son indépendance, quand même avec, bien sûr, la bravoure des soldats haïtiens, certes, mais quand même la bravoure aussi d'Aedes aegypti et d'autres Anopheles qui ont provoqué des maladies chez des personnes qui n'étaient pas du tout accoutumées au contexte local.
La guerre que l'Empire du Soleil Levant a menée contre la Chine de Chiang Kai-shek lui a permis de développer sans trêve sa puissance militaire. Et le Japon entre aujourd'hui dans le conflit mondial avec une armée entraînée, des cadres bien formés, un matériel des plus modernes.
Et il y a finalement un enjeu de guerre lié au paludisme qui se trouve dans le Pacifique. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon va étendre ses territoires et en particulier va récupérer des territoires qui appartenaient aux Pays-Bas, à la Hollande, où on s'était mis à cultiver le quinquina, un arbre dont l'écorce contient une molécule, la quinine, qui protège contre le paludisme. Des plantations avaient été faites dans un climat propice qui était du côté de l'Indonésie. Les Japonais prennent le contrôle de ces zones-là, donc prennent le contrôle de la quinine. Et au début de la guerre, ils vont, contre les États-Unis, ils vont bénéficier d'un atout, c'est que les soldats japonais sont protégés, en tout cas peuvent se soigner quand ils ont un accès palustre. Les Américains se retrouvent avec le paludisme, ils ne disposent pas de quinine. Et il y a un énorme effort de recherche qui est fait par les États-Unis. Il y a déjà des molécules qui commençaient à apparaître. Et donc, ils ont une première molécule qu'on va appeler la quinacrine, qui donne d'ailleurs une coloration un peu jaune fluo de la peau, que les Américains vont pouvoir prendre. Alors, on a l'impression qu'on est un peu à égalité, sauf que les Japonais ont l'idée d'aller faire une contre-propagande en quelque sorte, en utilisant la radio et des émissions à destination des Américains, donc des émissions en anglais avec les musiques que les soldats américains aiment bien, etc., donc attractives, et des speakerines qui vont dire des banalités, mais de temps en temps rajouter quelque chose, en particulier faire une contre-propagande sur ce médicament, la quinacrine, en disant que non seulement elle donne la couleur jaune, mais en plus, elle rend stérile, de manière à pousser les soldats à rejeter le médicament et donc à les rendre à nouveau vulnérables au paludisme.
Greetings everybody, this is your number one enemy, your favorite playmate Orphan Anne, Radio Tokyo.
Et puis la guerre avançant, les Américains finissent par contrôler les voies navigables entre l'Indonésie et ses îles. Et c'est à nouveau le système balance. Le paludisme va jouer à nouveau en faveur des Américains puisque les Japonais n'ont plus accès à la quinine. L'importance du paludisme pendant la Deuxième Guerre mondiale a été très bien mise en évidence par le général MacArthur qui a dit que les médicaments antipaludiques avaient eu plus d'influence sur la guerre que les nombreux porte-avions que les États-Unis avaient construit à ce moment-là. Ce à quoi un professeur qui a été mon mentor, qui était un ancien président de l'Académie de médecine, le professeur Ambroise Thomas, dans une conférence, a répondu que non, parce que les porte-avions avaient joué un rôle plus important, parce que ce sont eux qui ont coupé les voies de l'approvisionnement en quinine pour les troupes japonaises. Donc on voit de toute façon le lien très très fort qu'il y a entre disposer de médicaments contre le paludisme et mener une guerre dans des zones tropicales.
L'accès au traitement contre le paludisme a pu déterminer l'issue d'un conflit. La maîtrise progressive de ces médicaments et la découverte de nouveaux outils de lutte va mobiliser l'énergie d'une partie des scientifiques au XXe siècle pour tenter d'éradiquer ce fléau.